France Internationale.
Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Le scandale des Paradise Papers qui mettent à jour les techniques aussi subtiles que controversées d'optimisation fiscale concoctées par les avocats n'en finissent pas d'éclabousser les grandes firmes comme les plus riches. Parmi eux, la reine d'Angleterre qui, malgré les mises en cause, ne souffre pas d'un tassement de popularité. Une magie toute royale que nous décrypte depuis Londres Marie Billon.
La popularité d'Elisabeth II a passé avec succès un nouveau test. Les Paradise Papers ont révélé que la monarque, l'une des femmes les plus riches du monde, a fait fructifier une partie de ses deniers dans un paradis fiscal et au détriment de certains de ses sujets les plus vulnérables. En 2005, ses gestionnaires de patrimoine ont placé une partie des revenus privés du duché de Lancastre dans un compte offshore aux îles Caïmans. Et ce compte a notamment investi dans une société britannique qui, le mois dernier encore, a reçu une lourde amende accusée d'exploiter des familles pauvres et les personnes vulnérables avec ces techniques de vente et des taux d'intérêt prohibitifs. Le porte-parole du duché de Lancastre a aussitôt volé au secours de la reine en affirmant d'abord qu'elle n'a bénéficié d'aucune réduction fiscale grâce à ce placement et surtout que le duché n'était pas au courant des investissements du fonds. Elisabeth II ignorait donc que son argent était lié à l'exploitation de la misère de certains de ses sujets. Elle a même dû être choquée en apprenant ça, a précisé une députée. Les autres politiques qui osent se risquer à quelques commentaires ne sont guère plus agressifs. Il faut que sa majesté se sépare de ses conseillers en patrimoine. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'Angleterre qu'on demande en sacrifice les conseillers royaux pour épargner la tête couronnée. Certains médias et certains républicains estiment que plaider l'ignorance ne fonctionne pas. Les deniers privés de la reine sont investis dans un paradis fiscal et en tant que personne publique, elle a des devoirs. L'optimisation fiscale n'est pas un crime, certes, mais le gouvernement de Sa Majesté a déclaré la guerre au montage financier. C'est donc au mieux une incohérence d'un goût fâcheux. Ce scandale ne fait que prouver qu'il y a une règle pour les riches et une autre pour les plus pauvres, a déclaré le chef du parti travailliste Jeremy Corbyn, bien isolé, pour relier cet épisode des Paradise Papers à la lutte des classes.
I want to be a part of it. New York, New York.
Et toujours dans la rubrique luxe tapageur, même si les Paradise Papers ne sont pour rien dans cette affaire, le très vaste appartement new-yorkais de feu maréchal Tito est à vendre. 418 mètres carrés sur Park Avenue. La vente devrait contribuer à renflouer les caisses de l'État. La valeur estimée du bien est de 15,2 millions d'euros. Il y a, paraît-il, beaucoup de travaux à faire, nous dit Laurent Gélin.
La propriété a besoin d'une rénovation complète pour être vivable. Voilà ce qu'explique l'agent immobilier en charge de la vente de l'ancien appartement du maréchal Tito à Manhattan, New York. Mais sur Park Avenue, les biens de cette taille sont rares et ils partent rapidement. Acheté 85 000 euros en 1975 par l'État yougoslave, l'ensemble, situé au 16e étage, comprend 4 chambres et 5 salles de bain et des terrasses dominant toute l'agglomération new-yorkaise. Meublé dans les années 1970 et inoccupé depuis 1992 et la dislocation de la Yougoslavie, l'appartement n'a en fait accueilli qu'une seule nuit le maréchal, étant généralement utilisé par les diplomates yougoslaves envoyés aux Nations Unies. Cette vente s'inscrit dans le cadre de la vaste privatisation des dernières propriétés immobilières encore partagées par les États issus de la Yougoslavie. Pour renflouer leur caisse, ces derniers sont ainsi décidés à céder une autre résidence de 3600 m² sur la 5e avenue. Cette dernière, qui dispose de 32 chambres et de 8 salles de bain, est estimée à 42 millions d'euros. D'autres biens sont aussi disponibles à Tokyo, au Japon, à Berne en Suisse ou à Bonn en Allemagne, des héritages du passé qui devraient rapidement changer de main. Selon les médias américains, l'acteur Jack Nicholson serait sur les rangs pour acquérir l'éphémère appartement de Tito.
<t'-> L'expérience est désormais montrée comme un exemple qui devrait inspirer l'ensemble des clubs européens. En Belgique, le club de football bruxellois de Kreinheim accueille depuis 2015, 3 jours par semaine, des jeunes demandeurs d'asile dans ses équipes. Un projet sportif, éducatif et social qu'a suivi pour nous Alice de Batty de la RTBF.
Au volant de la camionnette du club de Kreinheim, achetée grâce au financement de la Commission européenne, nous retrouvons Kenneth. Il joue en équipe 1 à Kreinheim et c'est lui qui se charge d'aller chercher les jeunes joueurs chaque semaine dans les centres faits d'asile. Direction aujourd'hui, Woluwe-Saint-Pierre.
On va chercher les jeunes pour Kreinheim.
Ah ouais, ok.
10 jeunes hommes attendent dans le couloir. Ils ont entre 15 et 18 ans. Certains sont en tongs et s'inquiètent pour l'équipement. Mais pas de souci, le club a tout prévu. Une fois tout le monde habillé dans les couleurs de Kreinheim, jaune et bleu, les entraîneurs répartissent les équipes.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger les équipes. Donc on fera 2 équipes mixtes, d'accord ? Donc dans chaque équipe, il y aura des jeunes du club et des jeunes faits d'asile, d'accord ? Ok, donc maintenant on va faire la répartition.
Bon, Nono et Safouan, un va dans une équipe et l'autre.
L'idée d'accueillir des jeunes réfugiés est née en septembre 2015, au plus fort de la crise en Belgique. Le président du club, Laurent Thiel, voulait agir.
Nous nous sommes posé la question avec nos amis de Fait d'Asile, qu'est-ce que l'on peut faire grâce au football, qui est un sport universel qui permet aux jeunes, dans un langage très simple de communiquer, de voir comment on pourrait apporter une contribution au parcours d'intégration civique de ces garçons.
Richard est sur le terrain, il a 15 ans, il vient de Guinée et pour lui, ses entraînements, ce sont de véritables bulles d'air.
Oui, ça me fait du bien parce que j'aime beaucoup le football, j'aime le sport. Donc quand je me retrouve ici au terrain, ça me fait beaucoup du bien.
Ouais.
Dans les centres, il n'y a pas d'espace pour le football. Donc c'est pourquoi ils nous disent de venir ici au club de Kreinheim pour qu'on puisse s'entraîner, pour montrer aussi de quoi on est capable.
Il ne s'agit ici pas que de sport. Le club propose, avant chaque match, 1 heure de cours de français. Une toute nouvelle salle de classe vient d'ailleurs d'être inaugurée le long du terrain de foot.
Ça, c'est ton prénom ?
Ouais, c'est ça, c'est mon nom.
Ton nom de famille. Et Atta, c'est ton petit nom ?
Ouais. Moi, c'est Bari Mamadou.
C'est ?
Bari Mamadou. Je viens de la Guinée.
L'enseignante qu'on entend ici donne cours aux enfants âgés de 10 à 14 ans. Ils viennent du centre fait d'asile de Rixensart et sont accompagnés de leurs parents. Alban de Villepin est aussi enseignant bénévole. Il s'occupe, lui, des jeunes non accompagnés qui viennent de centres provisoires comme celui où on s'est rendu en début de ce reportage. Les adolescents n'y restent que 2-3 mois. Il est donc difficile de donner une formation en continu. L'objectif ici est de créer un espace de dialogue.
Moi, généralement, je ne fais pas parler de leur parcours jusqu'en Belgique, mais peut-être de leur pays d'origine, de leur parcours parfois un peu scolaire. Et puis surtout, les familiariser avec la vie, je dirais, en Belgique, la vie quotidienne, parce que pour certains, c'est assez surprenant. S'ils viennent de l'Équateur, ils n'ont pas connu les jours qui raccourcissent, les nuits qui rallongent, les 4 saisons que nous avons. Souvent, eux, ils ont une saison des pluies, puis une saison sèche, et puis c'est tout. Donc, c'est un peu mieux comprendre leur vie chez eux pour qu'ils comprennent un peu mieux la façon dont nous vivons ici.
1 millier de jeunes sont passés à Kreinheim depuis le lancement du programme. Une initiative qui fait tache d'huile, c'est ce que nous explique le président du club.
On a passé un accord avec l'Union Belge de Football au mois de mars, qui nous a demandé de les accompagner dans une prospection de clubs au nord du pays, dans la région de Bruxelles, capitale, et au sud du pays. Et aujourd'hui, il y a 20 de clubs belges qui ont manifesté leur intérêt pour reproduire tout ou partie de notre modèle.
Un modèle qui est également analysé par le Comité européen des régions qui voit un exemple de bonne pratique à partager dans toute l'Union européenne.
Córko, jesteś już w tym wieku, że nie, co za siara, matko.
S'il y avait un classement européen sur le niveau d'éducation sexuelle des jeunes lycéens, les Polonais seraient sans doute bon dernier. Aucun cours à l'école et un niveau d'ignorance qui laisse songeur. Pour compenser toutes ces lacunes, une campagne d'information par le biais de vidéos sur les réseaux sociaux a été lancée par la top model Ania Rubik à Varsovie, Maya Szymanowska.
Les clips sont noirs et blancs et ne dépassent pas la minute. Des acteurs célèbres, des chanteuses, des écrivains, des hommes hommes politiques se lancent dans des mini-cours sur la sexualité. L'acteur Mathieu Stour tente d'expliquer le sexe à sa fille avec beaucoup d'humour. La blogueuse Ma Fashion passe en revue tous les moyens contraceptifs. Robert Biedrogne, maire de Soupsk, parle de son homosexualité. D'autres expliquent l'importance de la liberté de dire non, l'importance des visites chez le médecin et des dépistages réguliers. Une initiative peu commune dans la très catholique Pologne, lancée par la top modèle Ania Rubik, pour qui ce n'est pas le premier engagement. Elle a déjà soutenu la mobilisation des Polonaises contre l'interdiction de l'avortement. Nous n'avons pas d'éducation sexuelle à l'école. À la place, nous avons la préparation à la vie en famille. Les conservateurs ont remplacé l'éducation sexuelle par la catéchèse, s'inquiète Ania Rubik. Effectivement, les études sur le degré de conscience des jeunes en Pologne sont alarmantes. 20% des ados pensent qu'en faisant l'amour debout, on ne peut pas tomber enceinte. Presque la moitié ne savent pas nommer les parties intimes et ne connaissent pas leur anatomie. Le niveau d'éducation quant aux maladies sexuellement transmissibles est aussi catastrophique. Les petits films qui circulent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux ont l'ambition de changer ces mentalités. Hashtag sextet.pl.
Les Russes se mettent au sport alors que la fréquentation des salles de gym est une pratique bien installée en Europe de l'Ouest, surtout au Royaume-Uni et en Allemagne. Elle est encore récente en Russie où le secteur connaît une très forte croissance à deux chiffres. De quoi attiser les appétits. Reportage à Moscou d'Étienne Bouche.
À l'heure de la sortie du travail, les tapis de course tournent à plein régime. Vélo, machine, piscine, sauna, ce club de la capitale a tous les attributs de la salle de sport moderne. Son cœur de cible, la classe moyenne moscovite. Alexandre vient ici 3 fois par semaine.
C'est important de faire du sport, surtout si l'on tient compte des spécificités de la vie dans une grande ville et du mode de vie sédentaire qu'elle implique. La voiture, le travail assis, il faut bouger, faire de l'exercice. Personnellement, j'ai un super coach qui me prépare un entraînement sur mesure. Il s'y connaît, c'est un vrai professionnel.
En remontant les interminables escalators du métro, un œil attentif remarque forcément le nombre de publicités pour les salles de sport. Des visages épanouis et des corps sculptés qui ont de quoi faire des envieux. Les tarifs sont très variables. Certains clubs visent les cadres supérieurs, d'autres une clientèle plus familiale. À Moscou, le nombre de salles se multiplie. Le mois dernier, un forum réunissait les professionnels du secteur. L'organisateur de l'événement, Maxime Babochine, se réjouit de la bonne santé du marché.
Il y a encore quelques années, il n'y avait quasiment pas de salle de sport moderne, comme c'est le cas aujourd'hui. Le marché ne cesse de se développer malgré les difficultés économiques. La croissance a certes un peu ralenti ces 2-3 dernières années. Avant, elle dépassait 20% par an. Aujourd'hui, elle est autour de 10-12%. En tout cas, cela continue de progresser.
Une dynamique qui s'explique par le fait que la pratique est récente en Russie. Les premiers clubs ont fait leur apparition dans les années 90. L'Union soviétique venait de disparaître, il était alors possible de se lancer dans les affaires. Dmitri Kalachnikov décide alors de miser sur le développement de cette activité. Il ouvre sa propre salle, le Banana Gym. Aujourd'hui, Dmitri est directeur de l'association des professionnels du fitness.
Quand c'est devenu possible, les gens ont commencé à regarder ce qui se faisait en Occident, en Europe et aux États-Unis. Et le secteur du fitness a commencé à se développer. Le mot fitness a fait son apparition, on se demandait ce qu'il voulait dire. Fitness, ce n'était pas très clair. Était-ce une forme de sport? Était-ce du culturisme? On se représentait quelque chose d'un peu glamour, papier glacé.
Glянец, glamour, что-то такое.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut dire qu'à l'époque, la pratique est associée à l'actrice américaine Jane Fonda, la reine de l'aérobic. Dans les années 90 en Russie, la fréquentation d'un club de fitness est avant tout un marqueur social. Les femmes de riches hommes d'affaires exhibent leurs tenues et leurs chaussures de sport. La pratique s'est démocratisée il y a une dizaine d'années seulement. Les Russes vivent aujourd'hui plus longtemps et les tarifs sont devenus plus accessibles. Roman Abramov est professeur au département de sociologie de la Haute École d'économie de Moscou. Selon lui, la tendance traduit une évolution des mentalités. Il voit dans ce rapport au corps l'intégration de valeurs libérales comme le dépassement de soi.
Cela s'explique par une amélioration de la qualité de vie, par une augmentation des revenus.
Beaucoup se sont mis à réfléchir et à prendre conscience que leur carrière était aussi liée à leur apparence, à leur productivité au travail, ce qui nécessite de se préoccuper de son corps. Le développement intellectuel ne passe pas uniquement par des formations de perfectionnement, mais aussi par le fait de se maintenir en forme, de prendre soin de soi. C'est ce que les sociologues appellent la capitalisation de son corps, faire valoir sa bonne forme physique au travail, son efficacité. Et puis, il faut remarquer que la salle de sport est à la mode.
Une mode qui s'explique aussi sans doute par la promotion d'un mode de vie sain fait par le pouvoir lui-même. Le tandem Poutine-Medvedev s'est souvent affiché en séance de sport. Roman Abramov souligne en tout cas que la pratique du sport en salle est particulièrement répandue dans le milieu politique et dans les administrations. Les spécialistes du secteur estiment que le marché n'est pas encore saturé à Moscou. Mais désormais, les perspectives de développement se trouvent surtout en région. Les réseaux de salles de sport visent les autres grandes villes du pays, comme Ekaterinbourg.
Peut-on dire non à Apple en octobre dernier? Après plusieurs années de contentieux, la Commission européenne a de nouveau demandé à l'État irlandais de récupérer 13 milliards d'euros auprès de la firme américaine pour évasion fiscale. Selon les derniers Paradise Papers, Apple ferait désormais de l'optimisation sur l'île de Jersey et non plus en Irlande, où elle a été épinglée. C'est dans ce contexte qu'on débat à Dublin d'un important investissement que la société informatique veut réaliser dans le pays, un data center, un centre de collecte et de stockage des données informatiques. La justice a donné son feu vert, mais quelques irréductibles fort isolés font barrage. On retrouve Julien Lagache à Dublin, où l'affaire a suscité de très nombreux commentaires.
Ben oui, l'Irlande, quartier général européen de nombreuses multinationales, est réputée plutôt accueillante pour les entreprises technologiques, avec sa fiscalité avantageuse notamment. Qu'un tel chantier soit retardé près de 3 ans a donc suscité pas mal d'incompréhension, d'autant que le projet d'Apple est d'une certaine ampleur. Il s'agirait de l'investissement privé le plus important de l'histoire dans l'ouest du pays, 850 millions d'euros au total, dans une région désindustrialisée où la firme à la pomme est attendue comme un sauveur. On parle de centaines d'emplois pour la construction, plus les ingénieurs et les ouvriers de maintenance une fois le centre ouvert, et Apple a vu grand puisqu'il propose un site autonome en énergie 100% renouvelable, ainsi que la création d'espaces pour les communautés locales. Bref, un projet assez vendeur qui a séduit la totalité des habitants, sauf deux, une avocate et un ingénieur qui contestent le chantier depuis le début.
Et quels sont ces problèmes, Julien?
Eh bien, ils estiment que l'évaluation d'impact environnemental qu'Apple a fournie, comme la loi l'exige, est insuffisante, voire trompeuse, car le centre de stockage de données est composé au total de 8 bâtiments que la compagnie veut faire construire un par un. Or, pour les deux opposants, Apple a livré un bilan qui ne prend en compte que le premier bâtiment. En outre, ils estiment que l'infrastructure doit quand même être reliée au réseau national d'électricité, avec des conséquences lourdes sur la distribution de courant et sur le rejet d'émissions de CO2. Mais les recours qu'ils ont successivement déposés devant les autorités locales, l'Agence de l'aménagement du territoire et la justice ont tous été rejetés. Les consultations, les contre-expertises ont donc ralenti l'examen du projet, sans compter que plusieurs fois la justice a dû ajourner l'affaire par manque de juges.
Ce qui explique le retard pris par le chantier qui avait été annoncé début 2015.
Et la frustration pour les partisans du site, parce que pendant que le chantier piétinait en Irlande, Apple construisait un autre centre de données identique au Danemark. Un deuxième serait même déjà envisagé, aux grandes dames des Irlandais qui craignent que les délais imposés aux géants américains ici n'effraient d'autres investisseurs potentiels. Alors si tout le monde ici reconnaît à quiconque le droit de contester des projets industriels, partout des voix s'élèvent pour réclamer un processus plus rapide et plus efficace. Le gouvernement prend cela très au sérieux et réfléchit aux moyens d'améliorer le cadre légal d'aménagement, en particulier pour les infrastructures perçues comme stratégiques. Or, l'Irlande se veut justement une terre d'accueil pour les centres de stockage de données qui sont devenus indispensables à l'avenir des multinationales de la high-tech.
Merci Julien Lagache à Dublin. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission, puis Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. Pour notre part, on se retrouve dès demain. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité sur RFI.